Bonjour, rebonjour à toutes et tous. Vous êtes sur graphite94.net et graphique.net en ligne. Donc je suis Stéphane. On écoute aujourd'hui des étudiants et des étudiantes de l'UTC qui viennent nous parler de leur projet mené dans le cadre du cours Low Technicisation et Numérique. Donc je suis dans le studio avec Mathéo, Mathilde et Anne. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Donc on va parler dans quelques instants de votre projet Territoire Lonum. Avant, on a parlé du projet 8 milliards d'internautes, sur lequel on va revenir également un petit peu après. Puis on parlera aussi cinéma, médias sociaux et durabilité du matériel. Un ordinateur qui dure 50 ans, on terminera vers 16h30-17h sur ce dernier projet. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le pad à l'adresse pad. picasoft.net/p/IS03 et si vous êtes intéressé par les contenus de ce cours ou par les réalisations des projets, vous pouvez les trouver à partir de l'adresse lonum.fr. Mais donc, je vais passer la parole à Mathéo, Mathilde et Anne pour nous parler de leur projet, donc Territoire Lonum. L'idée est de créer un site web qui va donner des informations sur les actions possibles permettant de low-techniciser des mairies de villes de taille moyenne. Donc vous avez travaillé sur l'exemple d'Évry-Courcouronne, ça aurait probablement pu fonctionner aussi avec une ville comme Compiègne. Mais donc c'est parti, vous avez la main.
Donc notre projet Terlonium consiste à imaginer un site web associé à une base contributive de données qui décrirait des actions possibles pour la low-technicisation des mairies de villes de taille moyenne. Donc l'objectif de notre projet est donc de mettre en avant les idées pouvant aider les collectivités à améliorer la soutenabilité et la convivialité de leur système numérique de façon à ce que l'on puisse construire, utiliser et réparer tout en prenant en compte l'environnement et les écosystèmes, mais également que l'on puisse utiliser aussi souvent ou aussi rarement que l'on désire tout en respectant les autres grâce à un accès facile et rapide.
La mise en place de ces idées par les mairies leur permettront de diminuer l'impact environnemental de leur parc numérique, tout en préservant son bon fonctionnement. Nous avons donc imaginé une base de données regroupant ces idées d'action de low-technicisation. Nous avons décidé que la base de données devrait être collaborative, alimentable et modifiable à travers un site web pour qu'il y ait régulièrement de nouvelles idées qui y soient ajoutées. L'évolutivité de la base de données permettra aux collectivités de faire face à de nouveaux challenges qui apparaîtront, notamment à cause du dérèglement climatique.
Et pour cela, nous étudions le cas de la mairie d'Évry-Courcouronne, qui est ville de taille moyenne qui contient 66 000 habitants. Les deux axes majeurs qui nous ont guidés sont la facilité d'usage et l'accessibilité. Il nous paraît essentiel que tous puissent contribuer au site, même avec de faibles capacités en numérique.
Tu peux enchaîner, je crois que tu vas nous présenter l'état de l'art à présent, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Et après, je vais vous présenter notre état de l'art de notre projet. Dans le cas de notre projet, nous nous sommes basés sur le modèle de la ville d'Évry-Courcouronne et nous avons eu la possibilité d'accéder à l'inventaire de leur matériel informatique et donc de réaliser dans quelle mesure le numérique occupe une place importante. Et premièrement, je voudrais vous présenter le numérique dans les mairies, ça sert à quoi? Et il est indéniable que le numérique peut permettre la simplification des procédures administratives dans les mairies en automatisant certains processus et en offrant des services en ligne. Par exemple, les demandes de l'état civil, les inscriptions sur les listes électorales ou les paiements en ligne. Et ensuite, il peut également favoriser la participation citoyenne en offrant des outils de consultation en ligne, de communication avec les élus et de partage d'informations sur les projets municipaux. Ensuite, il peut contribuer au développement durable dans les mairies en facilitant la gestion des ressources, la gestion des déchets, etc. L'utilisation des technologies vertes peut aider à réduire l'empreinte environnementale aussi des mairies, telles que les systèmes d'éjection de l'énergie et les solutions de transport intelligentes. Ensuite, on a constaté que L'impact environnemental des équipements informatiques varie considérablement d'un équipement à l'autre. Il y a trois sources principales impacts ont émergé en 2019. Ce sont les télévisions, les smartphones et les objets connectés. Les équipements d'infrastructure tels que les routeurs, les serveurs et les antennes relais ont une empreinte écologique principalement liée à leur consommation d'électricité pendant leur utilisation. Les équipements de divertissement tels que les vidéoprojecteurs ont un bilan énergétique principalement associé à leur utilisation. Les smartphones, les tablettes et même les ordinateurs portables et ainsi que les écrans ordinateurs sont regroupés dans une catégorie distincte où la fabrication concentre les impacts, à l'exception des télévisions qui ont un profil énergétique similaire à celui des équipements traditionnels. Et finalement, je vais vous dire... La majorité des acteurs communaux et départementaux estiment qu'il est important d'introduire des services publics numérisés au niveau local, mais ils souhaitent une stratégie globale définie par l'État et un meilleur partage des expériences entre les acteurs du territoire. Et les collectivités locales françaises ont accéléré leur transition numérique ces dernières années en remplaçant des démarches papier par des démarches numériques. Et cette transition est considérée comme bénéfique pour l'environnement, qu'elle réduit l'utilisation excessive du papier, qui a un impact néfaste en termes de produits chimiques et de consommation d'eau. Et cependant, les disparités persistent entre les grandes villes et les communes plus petites, avec un taux de transition numérique plus élevé pour les grandes villes. Et les communes de moins de 2000 habitants font souvent face à des contraintes financières et de compétences qui limitent leur capacité à se numériser.
Nous allons maintenant écouter Amélie de Montchalin, qui était ministre de la Transformation et de la Fonction publique de juillet 2020 à mai 2022. Elle s'est exprimée sur le souhait d'Emmanuel Macron de numériser les démarches des mairies sur la chaîne YouTube du ministère de l'Économie et des Finances le 23 octobre 2020.
Donc, le président de la République a pris un engagement très clair en 2017 qui consistait à mettre en ligne toutes les démarches administratives du quotidien. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays où on fait ses courses sur Internet, où on paye un abonnement en ligne, où on prépare ses vacances depuis chez soi. Mais pour faire des démarches tout aussi quotidiennes, souvent, il faut le faire avec du papier, ou parfois, on n'a pas d'autre choix que de devoir se déplacer dans un guichet. Les Français souhaitent le faire, et on va bien sûr continuer à le faire, mais on doit pouvoir avoir plus de liberté. Et donc, que nous puissions aussi déposer nos dossiers auprès des services publics bien par l'outil numérique. Numériser les démarches, c'est d'abord les rendre accessibles partout, tout le temps, facilement.
Les collectivités doivent donc se numériser et numériser leurs démarches, d'après le souhait d'Emmanuel Macron. Sauf que cette volonté de numériser ne paraît pas forcément une bonne idée dans le contexte d'une crise climatique et d'une population qui n'a pas toujours les compétences numériques suffisantes pour pouvoir faire ces démarches en ligne. Il semble donc essentiel de proposer aux mairies des idées de l'autotechnisation de leur numérique pour qu'elles puissent avoir une alternative soutenable, viable, à la fuite en avant vers le high-tech irréfléchi. On a donc imaginé un site qui permettrait d'accéder à une base de données contenant des idées de l'autotechnisation pour des collectivités. Je vais vous décrire rapidement les caractéristiques principales de la base de données et son fonctionnement. Vous pouvez trouver l'ensemble de nos travaux et aussi ceux d'autres projets tout aussi intéressants sur le site web l'onum.fr. La base de données et le site web que nous imaginons sera organisé en pages d'action. Chaque page d'action contiendra une idée d'action qui sera un ensemble de sous-sections. Elle contiendra un titre, une description de l'idée de l'action, le service de la collectivité qui est concerné par l'idée d'action, etc. L'organisation identique de toutes les pages d'action permettra de mettre en place un système de filtres et de recherche efficace pour que les utilisateurs puissent trouver facilement et rapidement une idée d'action qui pourrait leur permettre de le mettre en place au sein de leur collectivité. On a aussi réfléchi à un algorithme qui définira l'ordre dans lequel seront présentées les idées d'action. Déjà, cet algorithme n'affichera que les idées d'action qui correspondent aux critères de recherche et aux filtres appliqués par l'utilisateur. Et ensuite, pour départager les idées restantes, l'algorithme définira quelles idées sont les plus intéressantes et celles-ci apparaîtront en premier. On pourra définir cela, donc quelles idées sont les plus intéressantes, grâce à un bouton de sauvegarde qui sera disponible aux utilisateurs ayant un compte. Une petite histoire fictive pour vous expliquer comment fonctionnera ce bouton, et l'histoire de Jérôme. Jérôme a un compte sur le site et trouve une idée d'action qu'il souhaite réaliser plus tard et veut donc pouvoir la retrouver rapidement. Il clique donc sur le bouton sauvegarde et l'idée d'action apparaît maintenant dans la section dédiée de la page de son compte. L'algorithme, lui, voit que Jérôme a sauvegardé l'idée d'action et suppose donc qu'il l'a fait car elle l'intéressait et donc qu'elle pourra en intéresser d'autres. L'algorithme mettra donc plus en avant cette idée d'action quand Jeanne fera sa recherche à son tour quelques heures plus tard. L'algorithme mettra aussi en avant les idées les plus soutenables et les idées les plus conviviales. L'algorithme pourra faire cela grâce à plusieurs notes qui seront attribuées aux idées d'action par les utilisateurs. Chaque idée d'action aura une note de soutenabilité et une note de convivialité qui seront renseignées par celui qui a publié l'action, mais cette note évoluera avec l'évaluation de l'idée d'action par ceux ayant mis en place l'idée et donnant un retour d'expérience. Il y aura aussi d'autres notes pour que les utilisateurs puissent avoir un aperçu rapide des aspects principaux de chaque idée d'action de l'autotechnicisation. Il y aura une note représentant la difficulté à la mettre en place, une note sur le coût de mise en place, une note sur le temps que ça prend pour mettre en place et une note sur l'acceptabilité ou la radicalité de l'idée.
Et enfin, nous avons effectué donc une phase d'évaluation qui a permis de mettre en avant en fait les avantages et les inconvénients de notre projet. Donc pour cela, nous avions accès à un certain nombre d'outils d'évaluation, notamment l'outil appelé les 7 péchés du greenwashing que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui et qui permet de mettre en avant les éléments de notre site, de notre projet qui pourraient conduire à du greenwashing. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le greenwashing, c'est une pratique généralement trompeuse qui vise à mettre en avant des pratiques soi-disant écologiques en tant qu'argument marketing. Le but de notre site est de mettre en avant des actions qui permettent une utilisation du numérique plus durable. C'est notamment pour cela que faire un site internet pour mettre en avant des actions visant à réduire le numérique peut sembler contradictoire. Cependant, ce moyen de communication reste jusque-là le plus généralisé et permet une importante contribution à toutes les échelles. Pour éviter toute pratique trompeuse, le site Terlonium ne sera pas agrémenté d'un design avec des feuilles, des arbres ou encore complètement vert. Ce greenwashing visuel n'est pas du tout pertinent, d'autant que d'après un rapport de Google datant de 2018, le vert est environ 2 fois plus consommateur en énergie que le noir. Pour cette raison, nous avons opté pour une interface complètement en noir et blanc. Mais en passant au crible, en fait, les différents risques de péché, nous sommes arrivés à la conclusion que, du fait que Terlonium soit contributif, le plus gros risque provient en fait des utilisateurs et de leurs publications pouvant, elles, mettre en avant des mensonges, des compromis, etc. Donc les actions, par exemple, peuvent recommander des marques ou des produits plus soutenables et durables. Cependant, même en utilisant moins de composants nocifs, ces appareils ont toujours un impact non négligeable sur l'environnement. Si une mairie devait renouveler son parc numérique, il est bien sûr préférable de favoriser ces marques, mais l'idéal resterait de ne pas racheter d'appareils du tout. Il se peut même que des entreprises privées cherchent à mettre en avant des produits sur notre plateforme en mentant sur son impact bénéfique pour l'environnement. Les publicités de ces entreprises seront bien sûr interdites, mais il est possible que des acteurs indépendants masquent leur identité pour continuer ce type de promotion. De plus, les jauges et symboles attribués que Mathéo a évoqués juste avant, ces symboles sont attribués par les auteurs eux-mêmes et sont donc très subjectifs. Ces outils sont visuels mais ne sont pas très fiables et ça, on en a conscience. Par exemple, une action peut sembler ne pas coûter cher à une mairie qui, elle, allouerait énormément de budget au développement durable, mais peut paraître très cher pour une autre. Et les symboles qui illustrent le coût d'une action ne seront donc pas fidèles à la réalité. Et bien sûr, les actions ne seront pas testées pour être publiées. Les lecteurs devront croire ce qui est dit sur parole, car le système de modération ne pourra pas vérifier la véracité des résultats annoncés. Le greenwashing pourra donc toujours être présent sur la plateforme, mais le système de modération devrait pouvoir réguler et les utilisateurs, même en utilisant notre site web, devront quand même avoir quelques connaissances sur les enjeux environnementaux et sur ce qui est ou non pertinent.
Merci de votre présentation. Je peux peut-être rebondir tout de suite sur le dernier point que tu as donné. C'est-à-dire, est-ce que vous avez imaginé justement comment équiper vos utilisateurs de compétences? Est-ce que vous misez pour ça sur, je sais pas, sur l'enseignement scolaire, ou est-ce que il y aura des ressources qui permettront de se former? Est-ce que vous avez pensé à ce genre de choses? Sinon, peut-être.
Alors effectivement, ouais, on y a pensé. Alors on s'est pas spécialement étalé sur la question. C'est vrai qu'au départ, on était parti sur qui est aussi une sorte d'onglet. D'onglet ressources en quelque sorte, sur lequel les gens pourraient mettre des rapports, des recherches. Après, on est encore une fois vite arrivé à la conclusion qu'il pouvait y avoir des petits rigolos qui pourraient y mettre un peu tout et n'importe quoi. Donc, il est vrai qu'on a un peu passé cette idée, on a un peu mis ça de côté, mais si le projet devait aboutir un jour, il est vrai que ce serait très important d'avoir accès à ce genre d'informations. Donc, pour l'instant, on mise plutôt sur la connaissance individuelle. Mais ça ne tend qu'à évoluer.
Ok, alors pour reparler des petits rigolos que tu as mentionnés, il y a eu beaucoup de questions autour effectivement des mécanismes de contribution que vous-même vous avez largement mis en avant et largement souligné. Donc on sent que ça va être un point assez important du projet. C'est-à-dire d'un côté, on a compris que soit c'était les agents des municipalités ou les experts, on va dire d'une façon générale, qui produisaient l'information. Et dans ce cas-là, on était obligé de leur faire confiance. Soit on ouvrait un peu plus à la contribution. Et là, il y avait le risque que les gens se trompent de bonne foi ou même mettent en place des actions de mauvaise foi. Est-ce que vous avez quelques pistes que vous avez travaillées dans le projet ou que vous aimeriez travailler par ailleurs pour justement essayer de travailler un peu cette modération, mettre les curseurs, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des éléments complémentaires là-dessus?
On a réfléchi un peu à la modération et à qui pouvait contribuer à la base de données. Et on s'est dit que tout le monde pouvait avoir des idées intéressantes, qu'il soit dans le milieu des municipalités ou pas. C'est pour ça que c'était intéressant qu'il y ait toutes sortes d'idées qui arrivent de toutes sortes de personnes. Et sauf que, bien sûr, il fallait qu'on fasse attention à ce que les données qui sont présentes dans notre base de données soient quand même intéressantes et ne dérivent pas totalement du sujet initial. Et donc c'est pour ça que nous avons pensé à une modération un peu comme en suivant en fait le modèle de Wikipédia, qui est en fait une recherche de consensus. Il y a la version qui est visible sur le site et la dernière version qui a fait consensus jusqu'à ce que quelqu'un ne soit plus d'accord avec une modification qui a été proposée. Et propose une modification à son tour qui, elle-même, sera sujette au consensus, éventuellement.
Ok, super. Ouais, en effet, l'exemple de Wikipédia a largement montré que des fonctionnements comme ça étaient possibles. Il y a peut-être d'autres choses qu'on pourra imaginer si ce projet continue. Il y a eu par exemple l'exemple des conventions citoyennes où à un moment on réunit à la fois des experts, des novices, des citoyens, des gens un peu de tous âges, de toute sensibilité, de tout milieu. Et puis ils vont travailler ensemble pendant un certain temps, soit en présentiel, soit à distance, et produire ensemble des informations. Donc c'est peut-être aussi des pistes qui pourront être évoquées. Sur le début, en fait, quand Anne nous présentait notamment les velléités des collectivités à numériser au maximum pour ce que cela apportait de simplification, ça a fait réagir pas mal effectivement de personnes. À la fois, on va dire, il y a un petit peu de deux questions qui étaient présentes. Est-ce que vraiment, vraiment, ça introduit de la simplification? Est-ce qu'on n'a pas des sortes d'effets rebonds qui font qu'on croit que ça va simplifier? Puis en fait, on rajoute encore de l'administratif et in fine, c'est plus compliqué. Et puis deuxièmement, sur l'impact supérieur du papier sur le numérique, est-ce que vous avez connaissance d'études qui montrent ça de façon vraiment sûr, ou est-ce que c'est encore des choses qui sont un petit peu en discussion?
Alors je dirais donc que le vrai problème en fait des démarches administratives en France aujourd'hui, c'est le côté doublon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une démarche administrative, alors il faut faire des prédemandes sur Internet. Ensuite, on arrive en mairie et là, on remplit des documents papier. Donc en fait, on est sur des doublons. Et à vrai dire, même si on n'a pas fait des prédemandes sur Internet, eh ben, on peut quand même le faire sur papier. Donc en fait, le fait qu'il y ait ces doublons, je ne dirais pas que le papier a plus d'impact que le numérique parce que on est loin de pouvoir mesurer toutes ces choses-là. Cependant, le fait qu'on ait les deux en simultané, en fait, ça ne fait pas avancer le problème. En utilisant le... Soit on passe tout au numérique et dans ces cas-là, on dit le papier, c'est terminé. Et donc, dans ces cas-là, bah, on pourra complètement enlever l'impact des démarches papier de l'empreinte carbone des mairies. Soit bah, on passe complètement au numérique. Dans ces cas-là, on oublie complètement le papier. Mais pour l'instant, on est dans cet entre-deux où on essaye de conserver les deux, mais ça ne marche pas, en fait. Et donc l'idée, là, ce serait... On ne dit pas aux mairies, supprimez tout de suite tous vos ordinateurs, etc. Mais il y aurait des solutions pour réduire. Et quand on parle des mairies, on parle des mairies au sens d'instances publiques, mais des mairies au sens aussi, je dirais, d'entreprise, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au sens des employeurs, et employés ensemble, en fait.
Ok, donc ce que vous avez identifié, c'est le fait de garder les deux processus. Effectivement, le discours actuel, c'est plutôt de dire bah, donc, puisqu'il y a un problème avec les deux processus, il faut tout numériser. Et en quelque sorte, ce que j'entends un petit peu dans votre projet, c'est bah, peut-être non, plutôt donc, il faut essayer de voir là où on numérise et là où on numérise pas, là où il y a un vrai gain. Tu veux ajouter un petit mot ?
Ouais, parce que aussi l'idée de notre base de données est de proposer des solutions, de chercher des solutions grâce à une très grande contributivité que quelqu'un peut avoir une idée et qu'elle se diffuse. Parce que c'est bien que les idées intéressantes se diffusent et si on peut avoir un fonctionnement vertueux et qui convient à plus de monde qui se propage dans toutes les mairies de France, tant mieux.
Ok, donc des formes de démocratie technique, on pourrait appeler ça. Eh bien écoutez, je vais vous remercier tous les trois pour votre présentation. Vous saluez, vous souhaitez bonne continuation.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis.
Et à très bientôt, et nous on continue, on reprendra d'ici une dizaine de minutes environ.